L'Éden de Satan numéro 12. La puissance d'égarement d'avant tribulation. Le 31 octobre 2021. Brian Kozurek. Pasteur. La semaine dernière, nous avons lu les paragraphes 4 et 5 du sermon de Fr. Branham où il a lu en Genèse chapitre 3 concernant le serpent et à quel point il était malin et trompeur. Nous avons montré comment l'apôtre Jean a identifié le père de Caïn comme étant ce méchant. Et a montré comment il a nommé quelques caractéristiques identifiables de Caïn et montré que c'était des attributs du diable. Ensuite, nous avons lu où frère Branham a dit au paragraphe 6 en citant Luc 4.4 et Matthieu 4.4 où Jésus a dit, « L'homme né ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et puis il ajouta, alors, lisez la parole. Étudiez-la. Et étudiez-la avec les yeux de Dieu, afin de donner à votre intelligence la compréhension de la manière dont nous devons vivre en ce jour-ci. Maintenant, ce matin, nous allons continuer avec cette pensée sur la séduction du méchant et poursuivre avec ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2 où il nous avertit que cet esprit de séduction sera primordial au temps de la fin comme condition ou caractéristique principale des derniers jours. Il dit qu'il s'agit essentiellement de séduction et, de puissance, d'égarement. 2 Thessaloniciens 2.10 Et avec toutes les séductions, remarquez il dit toutes, s'estèrent toutes les séductions de l'iniquité, de la sagesse incorrecte, pour ceux qui périssent, pas ceux qui périront, mais ceux qui sont en train de périr. Ceux qui périssent au temps présent, et cela vous montre ou identifie ceux qui sont en train de périr, parce qu'ils expriment également une séduction totale. Par conséquent, en observant cet attribut exposé de la séduction, vous serez en mesure d'identifier celui qui estère en train de périr et de celui qui n'est mis l'estère pas. Comme Jean a pu identifier que le père de Caïn était ce méchant. Le diable. Et Paul nous dit qu'ils sont en train de périr parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Remarquez qu'il dit au égal à plus le mensonge. Et quel était le même mensonge que le serpent a dit à Ève au commencement? Et c'était le même mensonge qui Esther dit en 7 heures. Vous dites quel mensonge Esther-ce? Prenez ceci, faites ceci, et vous n'avez mis mourrez point. Et l'apôtre Paul dit ici, 12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. 14 Sester à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire, la doxa de Dieu, qui vient par le cri de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le premier solin 18 mars 63 90 frère Branham Esther également en train de lire ce même verset et il dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité, séduisant les gens par l'iniquité pour ceux qui périssent n'ont pas cette épouse. Pour ceux qui recherchent de telles choses, parce qu'ils n'ont pas reçu, d'accord? Alors quel credo préfère-t-il à la parole de Dieu? Vous faut-il croire en une trinité pour être sauvé? Vous faut-il croire en l'unitarisme pour être sauvé? Vous faut-il faire certaines choses ou certains rituels pour être sauvé? Tels que de Néhémie pas manger de viande? Vous faut-il fréquenter une certaine église pour être sauvé? Vous faut-il croire à une certaine doctrine pour être sauvé? Vous voyez? Leurs credos peuvent être une foule de choses, mes frères et sœurs, parce que le mot credo signifie simplement une croyance. La vraie définition Esther, tout système, doctrine ou formule de croyance religieuse, telle que d'une dénomination. Tout système ou codification de croyance ou d'opinion. Une déclaration formulée faisant autorité des principaux articles d'un système de croyance chrétien, tel que le credo des apôtres, le credo de Nicée, ou le credo de saint Athanase. Donc, fondamentalement, un credo estère toute croyance ou codification de croyance en dehors de la parole de Dieu. Le simple fait d'ajouter un iota ou un trait de lettre à la parole de Dieu peut en annuler le sens. Ainsi, nous entendons frère Branham citer l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2, et avec toutes les séductions de l'iniquité, séduisant les gens par l'iniquité pour ceux qui périssent n'ont pas cette épouse. Pour ceux qui recherchent de telles choses, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. 91 Et Christ estère la vérité, et Christ estère la parole. Mais eux, ils aiment mieux avoir un credo pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient un mensonge. 92 Ça devrait être traduit là comme je l'ai vérifié dans le lexique. Par le mensonge. Pas un mensonge. Le mensonge. Le même qu'il a raconté à Ève. Afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Écoutez les gars. Je n'invente pas ce genre de choses. C'est-à-dire ainsi dit le Seigneur par le prophète confirmé de Dieu, et il a dit que c'était le même mensonge que le diable avait fait croire à Ève. Dans son sermon, le Dieu de ces étages mauvais dîme 1er août 65, M. frère Branham dit, 61 cela amène une puissance d'égarement, comme la Bible l'a énoncé, de Thessaloniciens, comment cet homme du péché apparaîtrait et s'assiérait dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu et entraînerait les gens dans une puissance d'égarement pour qu'ils croient un mensonge. Et croire cela entraînera qu'ils soient condamnés. C'est-à-dire la même chose qu'il fit à Ève. Il lui avait donné. Jamais Néhémie lui a dit que la parole de Dieu n'était pas vraie, mais il lui fit voir une puissante illusion, afin qu'elle crût un mensonge. 62. L'esprit de séduction estère du diable. Les démons qui agissent maintenant dans les fils de les désobéissances. Désobéissance à quoi? À quoi les enfants de ces jours-ci sont-ils désobéissants? À la vraie parole de Dieu, comme Ève l'était au commencement. Maintenant, qu'est-ce ce qui cause la puissance d'égarement? De rejeter la vérité de la parole de Dieu. Autrement dit, Dieu a dit, que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, et que la mienne soit reconnue pour vraie, dit le Seigneur. Maintenant, pensez-vous qu'une personne peut rejeter ce qu'un prophète confirmé a enseigné comme étant la vérité et Néhémie pas s'ouvrir à l'esprit d'égarement? Dieu a dit que c'est la raison même de l'envoi de la puissance d'égarement. Frère Branham dit comment ils ont rejeté la vérité. Dans Christ estère révélant et sa propre parole dîme 22 août 65 m 81 en disloquant les Écritures, vous pourriez mal à qui assembler son corps, placer le pied où devrait être la tête, ou quelque chose comme cela. Et le mot disloqué signifie, mettre en dehors de sa place, mettre en dehors de la position appropriée, déplacer, le glacier a disloqué de grosses pierres. Le séisme a disloqué plusieurs bâtiments. Ceux des boîtières, comme un membre ou un organe. Mettre le désordre ou mélanger. Perturber l'ordre. Désordre. Il continue, exactement comme un. Autrement dit, vous pourriez avoir Jésus, enseignant le message de Moïse. Vous pourriez avoir, ou même Wesley enseignant l'âge de Luther. Vous pourriez avoir aujourd'hui notre âge enseignant la Pentecôte, le message pentecôtiste. Vous voyez quel gâchis il y aurait là-dedans? Le pentecôtisme a déjà montré ses couleurs. Luther a déjà montré les siennes. Il s'est replongé dans la dénomination. Aussitôt, ce fut la mort, l'âge a sonné, et voilà. 82 remarqués. Aussitôt organisé, frère Branham fait claquer ses doigts. NDE, c'était la mort. Maintenant, voyez si ce n'est pas vrai. Remontez les pages de l'histoire. Chaque fois que cela s'organisait, c'était la mort sur le champ. c'était complètement terminé. Cela devenait un adorateur du Dieu de ce monde. Cela s'est plongé dans les organismes, les organisations, les dénominations et les illusions. Une bande de requis s'y est infiltrée et ont mis leurs propres objections, ou plutôt y ont injecté leurs propres pensées. Et qu'est-il arrivé? C'est devenu un gâchis. Et cela va aboutir au Dieu de ce monde quand ils mettront Satan lui-même sur le trône, pensant avoir en lui un grand leader mondial qui leur apportera la paix. Maintenant, tout d'abord, il nous dit que de prêcher un message pentecôtiste aujourd'hui met tout en désordre. Alors pourquoi les gens qui prétendent croire que Dieu l'a envoyé pour mettre de l'ordre veulent continuer dans ce désordre? Puis il nous dit qu'en y injectant nos propres pensées, cela nous n'apportera qu'une illusion. Il appelle en outre ces gens qui veulent ramener un message pentecôtiste, ces petits riquis qui injectent leurs propres pensées. Cela en fait juste une illusion. Or ces mots décrivent des pseudo-ministres qui viennent avec leurs illusions pentecôtistes, comme la fausse doctrine selon laquelle la plénitude de la divinité habite dans l'épouse. C'est une idée totalement absurde, qu'il n'y a plus Dieu, et que tout Dieu est maintenant dans l'épouse. Alors, qui maintient tout l'univers en orbite? Qui s'assure que la lune n'est mise s'approche pas trop près de la Terre pour provoquer des inondations majeures? Qui contrôle toutes choses, et s'assure que tout est maintenu ensemble? Il y a quelques semaines de cela, je vous ai montré comment leur propre incompréhension de la souveraineté de Dieu les ouvre à de tels égarements. L'apôtre Paul a dit dans Colossiens 1.16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. 17. Il est terre avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. 18. Il est terre la tête du corps de l'Église, il est terre le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. L'apôtre Paul n'a pas dit en eux. Il a dit en lui. Habitât toute la plénitude. L'apôtre Paul n'a pas dit qu'ils sont avant toute chose. Il a dit qu'il est terre. L'apôtre Paul n'a pas dit en eux toute chose subsiste. Il a dit en lui. Et William Branham qui a très clairement dit qu'il n'a enseigné que ce que Paul a enseigné, n'a jamais enseigné ses foutaises, mais ceux qui croient cela Néhémie savent tout simplement pas lire. Il a dit la plénitude de la divinité Esther parmi l'épouse. Parmi, c'est Esther loin du fait d'habiter. Il a dit que nous avons une mesure et Jésus l'avait sans mesure. Les choses qui doivent arriver dim 5 décembre 65-32 Jésus était la plénitude de Dieu manifestée. Il était la plénitude de Dieu dans un corps. Le filtre d'un homme qui réfléchit dim 22 août 65 S34 il est la tête de l'Église. Il est la tête du corps. Il n'y a rien comme lui, nulle part. Il a tout créé par lui-même. Il a tout créé pour lui-même. Il a tout créé pour lui-même, et sans lui rien n'eût été créé. Il a toute autorité dans les cieux et sur la terre, et tout lui appartient. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et la parole était Dieu et elle fut faite chair parmi nous, et c'est lui qui a révélé le secret de tout le plan du salut dont ont parlé tous les prophètes et sages. Lui seul était couvert de cette perruque et avait l'autorité suprême. Donc il parle de Dieu, pas de l'homme Jésus. Mais tout Dieu est à rentrer dans cet homme Jésus, le Fils de Dieu. Un paradoxe samedi 18 avril 64 D60 et Dieu, en tant qu'esprit, Néhémie pouvait pas prendre la place de l'homme. Dieu a donc créé une cellule de sang qui était son propre Fils, Jésus-Christ. Et Dieu y est à rentrer et y a vécu, et il a vécu et s'est identifié en Christ. C'était Dieu Emmanuel. Jésus a dit, « Moi et mon Père nous sommes un. Mon Père demeure en moi. » Voyez-vous? Dieu en Christ réconciliant le monde. Jésus était le corps, le tabernacle. Dieu était l'Esprit qui habitait en lui. 61 Maintenant, par exemple, nous avons l'Esprit dans une portion. Lui, il l'avait sans mesure. Il était la plénitude de la divinité corporellement, Dieu. Mais nous, nous l'avons avec mesure. Maintenant, par exemple, Sester comme le petit don que nous avons maintenant parmi nous. Eh bien, Sester comme prendre une cuillère et de l'eau de l'océan. Jésus était l'océan entier, mais ceci n'Esther qu'une cuillère. Mais, souvenez-vous, les mêmes éléments chimiques qui se trouvent dans l'océan entier se trouvent dans cette cuillère, seulement, là il y en a en plus grande quantité. Voyez-vous, il était Dieu. Nous n'y sommes pas Dieu. Nous n'y sommes pas Dieu, mais ensemble. Trois sortes de croyants d'hymne 24 novembre 63 et 71 Dieu a dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Je suis Dieu et je n'y change pas. » Amen. Et Dieu Esther la parole. Et si Dieu n'y change pas, comment la parole changerait-elle? Vous voyez, je suis Dieu et je n'y change pas. C'est Esther ce que dit l'Écriture. Dieu l'a dit lui-même. Et s'il Néhémie peut changer, alors il Esther la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, la parole immuable. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Amen. Certainement. 72 Dieu a suscité des corps tout au long des âges, Moïse, Ézéchiel, Jérémie, Esaïe, Élie, et partout où sa parole venait temporairement, mais la pleine parole a été manifestée en cet homme, Jésus-Christ, qui était Dieu dans la plénitude de la divinité corporellement. C'est là qu'il fut fait chair. J'en crois chaque mot. N'ayez pas peur, Mère 20 juin 62-79, tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Jésus. Croyez-vous cela? Il était la plénitude de la divinité corporellement. Et tout ce qui était Jésus, il l'a déversé dans l'Église, le Saint-Esprit. Esther ce juste? C'est Esther donc Dieu en nous. Dieu en nous. Ce n'Esther pas. Cela n'y fait pas de vous quelque chose. Il n'y s'agit pas de la Sainte Montagne ni de la Sainte Église. Il s'agit du Saint-Esprit, pas du peuple saint, du Saint-Esprit. Voyez-vous? Il s'agit du Saint-Esprit dans le peuple, pas du peuple saint, du Saint-Esprit. Voyez-vous? Et c'est-ce cela la chose. Ensuite, d'autres diront, la plénitude de la divinité habita dans William Branham quand il a dit à plusieurs reprises ce que j'ai n'Esther qu'une mesure. Mais vous voyez quel credo fera l'affaire? Ils en prendront un ici et un autre ailleurs et formeront leur propre système de croyance. Mais pourquoi le disent-ils? Parce qu'ils disloquent les paroles du serviteur de Dieu William Branham. Maintenant, arrêtons-nous ici un instant et regardons cette pensée ici du message. En ayant les petits requis injectant leur propre pensée, Esther est devenue juste une illusion. Alors qu'Esther ce qu'une illusion de toute façon? Et quelle est Esther la différence entre une illusion et une puissance d'égarement? Selon le dictionnaire Webster, une illusion Esther, quelque chose qui trompe en produisant une impression fausse ou trompeuse de la réalité. L'état ou la condition d'être trompé, en psychologie, une perception, telle qu'un stimulus visuel, illusion d'optique, qui représente ce qui est Esther perçu d'une manière différente de la façon dont cela est Esther en réalité. Ainsi une illusion parle de tromper et d'induire en erreur. Alors qu'une puissance d'égarement Esther définie comme une fausse croyance ou opinion, Bien que les illusions et la puissance d'égarement sont tous les deux faux. Les illusions sont du domaine de l'esprit, de la pensée et la puissance d'égarement Esther du domaine de la croyance. Alors, quand Dieu leur enverra une puissance d'égarement, il leur envoie une fausse croyance. Alors qu'on peut dire des illusions, quels sont ceux qui trompent l'esprit, la pensée, mais la puissance d'égarement mental. Ce sont des choses qu'un individu perçoit comme étant la vérité, même si cela est contraire à toute preuve. Et la Bible dit que Dieu leur enverra une puissance d'égarement, parce qu'ils n'aiment pas la vérité. C'est donc Dieu qui envoie la puissance d'égarement. Et si une puissance d'égarement est du domaine des croyances, qui sont contraires aux preuves et aux faits, alors qu'est ce qui leur fait croire quelque chose de contraire aux preuves et aux vérités? L'illusion de quelque chose qu'ils voient ou entendent. Et rappelez-vous qu'une illusion est une impression trompeuse de la réalité. William Branham dit dans Dieu de Walden 14 juin 64 22 et chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez, et j'espère et je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de montrer à l'Église sans le dire ouvertement. Voyez, c'est quelque chose. Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir, et certains à réfléchir. Mais c'est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. Et donc dans la façon dont les mots sont parfois présentés, nous trouvons que les gens les prennent et les appliquent mal à qui ou les disloquant. Puis, comme pour reconstruire un puzzle, ils font manger de l'herbe à la vache sur l'arbre parce que l'herbe et l'arbre sont tous les deux verts. Et comme la découpe des pièces du puzzle peuvent paraître semblables, ils mettent la vache qui mange de l'herbe dans l'arbre. Bien que la découpe des pièces de puzzle puisse partiellement s'adapter, bien souvent une vache qui mange de l'herbe dans l'arbre est perdue au fait que la personne qui reconstruit le puzzle les a fait s'adapter ainsi parce que c'est ce qu'elle perçoit. C'est ce qu'elle croit. Maintenant, écoutez. Dans la citation que nous avons lue, où frère Branham nous dit que c'est ce qui advient de la parole de Dieu, quand les petits riquis injectent leurs propres pensées. Il a dit, ça devient une illusion, et puis il a dit, c'est devenu un gâchis. Maintenant, comme je l'ai dit, le dictionnaire Webster nous dit qu'une puissance d'égarement est une idée ou une conception fausse, une croyance ou une opinion qui n'est pas conforme aux faits. Et c'est ce que frère Vell a dit à propos du credo des deux seigneurs. Il a dit, deux seigneurs, c'est du sophisme. Et il a dit, mais ils utilisent cela, parce qu'ils peuvent voir là où la Bible dit dans Matthieu 22.44, le Seigneur dit à mon Seigneur. Mais il dit aussi à trois autres endroits où il était effectivement indiqué qu'Elohim a dit à Adonai. Ainsi l'illusion a été placée là par les érudits trinitaires qui ont écrit la Bible du roi Jacques. Et alors frère Vell a dit, puisque c'est là, alors il l'utilise. Mais cela ne rend pas la chose juste. C'est toujours du sophisme, une erreur, un faux raisonnement. C'est juste une illusion qui mène à une puissance d'égarement. Frères et sœurs, vous devez vérifier la doctrine de la Genèse et l'Apocalypse pour vous assurer que vous l'avez correctement. Et si Moïse et Zacharie, et Jésus, Paul et William Branham ont tous prêché un seul Seigneur, alors deux Seigneurs restèrent une puissance d'égarement fondée sur une illusion que vous lisez dans la Bible sans faire vos devoirs de vérifier. Une illusion est une tromperie, une imposture qui n'est pas réelle. C'est une apparence ou une image qui induit en erreur. Une perception, ou conception ou interprétation fausse de ce que l'on voit. Une image qui induit en erreur produisant ainsi une fausse impression. Nous voyons donc que ces pensées sont le résultat d'une fausse interprétation. et frère Branham les a encore qualifiés d'illusions, qui signifie que la parole est interprétée de manière à la faire paraître différemment de ce qu'elle est vraiment. Comme un mirage dans le désert où on pense voir de l'eau, mais l'eau n'est pas vraiment là. Nous entendons le prophète Ésaïe en parler dans Ésaïe 29.7, et, comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations, qui combattront Ariel ou la montagne de Sion, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Et rappelez-vous que la montagne de Sion parle de l'épouse de Christ. Dans son sermon La demeure future d'Im 2 août 64, frère Branham dit, 385 écoutez. On va le lire. Regardez. Là. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Et diront, nous mangerons notre pain. Nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. 386 Seister le temps de la fin là, dans lequel nous vivons maintenant, le mariage, le divorce, et la prostitution, et quoi encore. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Les réchappés d'Israël. Comment vous avez échappé à toute la damnation? Voyez, et les restes de Sion, et les restes de Jérusalem, seront, voyons voir, de Jérusalem, seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Vous voyez, en quoi le Seigneur aura lavé les ordures de la fille de Sion? Souvenez-vous, c'est Esther toujours l'épouse. Vous voyez, et purifiez Jérusalem du sang, ça. C'est Esther le reste des Juifs. Plus l'épouse. Vous voyez. Et au milieu d'elle, avec le souffle de jugement, de feu. 387 C'est Esther toujours ça qui Esther le jugement de Dieu, au moment où il rend son jugement final. Il vous appelle, il vous justifie, et il vous amène à la rédemption. Ensuite, son jugement s'abat sur vous. Et le Saint-Esprit et le feu vous purifient du péché. Alors, vous êtes à lui. 388 Il fait la même chose avec la terre, quand il l'épure par le feu et par l'Esprit qui consume. Maintenant, regardez. Écoutez. Êtes-vous prêts? L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur son lieu d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour, et un feu de flamme pendant la nuit, car tout ce qui est Esther glorieux sera mis à couvert. Et dans son sermon la parole parlait Esther la semence originelle d'Im, 18 mars 62 et s'il dit, 432 ensuite, dans la pluie de l'arrière-saison, viendra une épreuve de force, comme celle de la montagne du Carmel. La Bible qui s'accomplit, à la lettre. Jean-Baptiste, son messager devant sa face, de Malachie 3. Il a planté une pluie de la première saison, et il a été rejeté par les églises, par les dénominations, les pharisiens et les sadducéens de son époque. Jésus est revenu, et il a eu l'épreuve de force de la montagne de la transfiguration. Ce précurseur des derniers jours sèmera pour la pluie de la première saison. Jésus sera l'épreuve de force face aux dénominations et aux credos. Et il Esther sa parole. Quand il viendra, il y aura une épreuve de force, l'enlèvement de son épouse. La première a été celle de la montagne du Carmel. La deuxième a été celle de la montagne de la Transfiguration. La troisième sera celle de la montagne de Sion. Gloire. Nous voyons donc qu'Ésaïe 29.7-8 parle de l'illusion et de la puissance d'égarement qui viennent contre ceux qui combattent l'épouse et elles viendront comme un songe nocturne, une puissance d'égarement. Et puis Ésaïe explique cette vision ou ce songe nocturne. Et ici, Nous voyons la Bible nous avertir de ce qui va arriver à ceux qui combattent les poux élus. Ésaïe 29.8 Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Ce sont ceux qui combattent les poux du Christ. Nous examinons donc cette illusion qui produit la puissance d'égarement que Dieu a promis de donner à tous ceux qui n'aiment pas son apparition, qui espèrent sa parousie. Remarquez alors que ces hommes vivent sous une puissance d'égarement. Ils mangent du pain de vie mais ce n'est qu'un rêve. Quand ils se réveilleront de leur rêve, ils seront encore vides. Pourquoi? Parce qu'ils vivent sous une puissance d'égarement. Séduit par une vision ou une croyance fausse ou un faux credo. Et qu'est-ce ce qui a causé cela? Ils ont plus d'estime pour leurs propres opinions que pour la parole de Dieu. Remarquez qu'au verset 9-12, on nous dit qu'ils seront dans l'assoupissement, et le Seigneur aura apporté sur eux ce sommeil profond et leur rêve n'émis leur produiront rien. Lorsque les hommes cherchent une confirmation en dehors de la parole de Dieu, ils sautent souvent sur n'importe quel verset qu'ils pensent correspondre à leur croyance. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est pourquoi ils font manger de l'herbe à une vache au-dessus d'un arbre. Au chapitre 8. Comment les Valentiniens pervertissent les Écritures afin de soutenir leurs propres opinions pieuses. 1. Irénée écrit, tel est donc leur système, que, ni les prophètes ont annoncé, ni le Seigneur n'a enseigné, ni les apôtres n'ont apporté, mais dont, au-delà de tous les autres, ils se vantent d'en avoir une parfaite connaissance. Ils recueillent leurs opinions à partir d'autres sources que les Écritures. 4. Et, pour utiliser un proverbe populaire, ils s'efforcent de tisser des cordes de sable, tandis qu'ils s'efforcent d'adapter, avec un air de probabilité, à leurs propres affirmations particulières, les paraboles du Seigneur, les paroles des prophètes et les paroles des apôtres, afin que leurs projets n'émis paraissent pas tout à fait sans appui. Ce faisant, cependant, ils n'émis tiennent pas compte de l'ordre et de l'enchaînement des Écritures, et pour autant qu'ils se trouvent en eux la volonté, de démembrer et de détruire la vérité. En transférant des passages, en les habillant d'une nouvelle façon et en faisant d'une chose autre chose, ils réussissent à tromper beaucoup par leur art malicieux en adaptant les oracles du Seigneur à leurs opinions. Maintenant, avant d'aller plus loin, je voudrais poser une question, comment pouvez-vous tisser des cordes de sable? Vous n'aimez le pouvez pas. De par sa nature, lorsque vous ramassez du sable, il se désagrège. Et s'il était possible de faire une corde de sable en le pressant d'une façon ou d'une autre, vous n'y pourrez toujours pas la tordre. Car au moment où vous essayez de la nouer ou de le tisser, elle se désintégrerait. Et donc Irénée a dépeint une image pour que nos esprits voient la futilité des efforts de ces gens de faire fonctionner et d'adapter quelque chose qui n'a aucune possibilité de fonctionner ou de s'adapter. Et puis il ajoute, tandis qu'ils s'efforcent de les adapter, avec une apparence de probabilité, à leurs propres affirmations particulières. Et je veux que vous compreniez ce qu'il dit ici. Tandis qu'ils s'efforcent de les adapter, avec une apparence de probabilité, à leur propre affirmation, et c'est là la clé. Ce sont leurs propres affirmations particulières qu'ils énoncent. Ils n'y sont pas intéressés à prouver la parole de Dieu, mais ils n'y font qu'utiliser la parole de Dieu pour déclarer leurs propres notions ou idées. Irénée poursuit en disant, leur façon d'agir est comme si quelqu'un, quand une belle image d'un roi a été montée par un artiste habile avec des bijoux précieux, devrait alors mettre en pièces la ressemblance ou l'image de cet homme, réarranger les pierres précieuses, et ainsi les rassembler de façon à leur donner la forme d'un chien ou d'un renard. Et cela même là qui exécutait, et puis soutenir et déclarer que c'était là la belle image du roi que l'habile artiste avait montée, montrant les bijoux qui avaient été admirablement montés ensemble par le premier artiste pour former l'image du roi, mais qui ont été avec un mauvais effet transférés par ce dernier artiste à la forme d'un chien, et en exhibant ainsi les bijoux, il devrait tromper l'ignorant qu'une ennemi savait pas à quoi ressemble à la forme d'un roi, et les persuader que cette misérable ressemblance du renard était, en fait, la belle image du roi. De la même manière, ces personnes raccommodent des fables de vieilles femmes, et puis s'efforcent, en s'éloignant violemment de l'enchaînement approprié, des mots, des expressions et des paraboles à chaque fois qu'on les trouve, pour adapter les oracles de Dieu à leur fiction sans fondement. Nous avons déjà indiqué dans quelle mesure ils procèdent ainsi par rapport à l'intérieur du plérum, qui signifie plénitude. Maintenant, souvenez-vous que l'accusation du premier âge de l'Église Esther, qu'ils ont abandonné leur premier amour pour la parole. Et Cyrénée, qui Esther le deuxième messager de l'âge de l'Église, entre en scène et nous raconte comment ils sont tombés. Et c'est Esther exactement ce que frère Branham nous dit dans l'Éden de Satan. Et ainsi nous voyons dans Esaïe la même scène dans sa parabole. 9. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est-ce pas de vin? Ils chancellent, mais ce n'est-ce pas l'effet des liqueurs fortes? 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. 11. Toute la révélation Esther pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela. Et qui répond, je n'ai mis le puits, car il est Esther cacheté. C'est Esther comme ces gens qui croient que les sept sceaux sont encore scellés, 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui n'est mis sait pas lire, en disant, lis donc cela. Et qui répond, je n'ai mis c'est pas lire. Maintenant, nous savons qu'un mirage n'est qu'une illusion. Webster nous dit qu'une illusion est la même chose qu'une hallucination. Et il nous dit aussi qu'une hallucination est la même chose qu'une illusion ou un mirage. Mais les mirages n'émis sont pas inoffensifs. Ils sont très dangereux car ils vous donnent une fausse espérance. Mais vous n'émis pouvez pas étancher votre soif en buvant dans un mirage pas plus que vous n'émis pouvez vous réchauffer assis auprès d'un feu peint. Ce n'est qu'une fausse illusion. Esaïe dit, quand ils se réveilleront de leurs rêves, ils seront encore vides, car ils vivent sous une puissance d'égarement. Une fausse vision de séduction. Et qu'est-ce ce qui a causé cela? Ils ont une plus grande estime de leurs propres opinions que de la parole de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que l'apôtre Paul, qui a parlé de cette puissance d'égarement d'avant tribulation, a également parlé de la pensée de Christ étant dans les élus de Dieu. Philippiens 2.5, ayez en vous les sentiments ou la pensée qui était en Jésus-Christ. Et il a aussi dit, dans Philippiens 3.15, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Ainsi, ce qui nous donne la capacité d'avoir cette même pensée c'est la révélation qui vient de Dieu. Maintenant, tout enfant qui suit le ministère de William Branham devrait pouvoir citer Matthieu 16.17 Jésus, reprenant la parole. Lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est mis sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 18 Et moi, je te dis que tu es Aïe Pierre, et que sur cette pierre de la révélation je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts Néhémie prévaudront point contre elle. Maintenant, comme je l'ai dit, À peu près tous ceux qui suivent le message de William Branham l'ont suffisamment entendu dire cela, qu'il devrait pouvoir citer cela et même parler intelligemment de la révélation, de ce qu'est la révélation et combien elle est nécessaire aux croyants. Mais pourquoi la majorité des ministres, qui prétendent croire son message, refusent de croire ce que Pierre a dit qui a produit une telle louange de la part de Jésus? Au verset 13, Jésus avait posé la question aux disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi? Le Fils de l'homme? » 14, ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. 15, et vous? » leur dit-il. « Qui dites-vous que je suis? » 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus a déclaré que Pierre était heureux, et il a dit ces paroles remarquables, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est mis sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » 18, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, celle de la révélation, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts n'y prévaudront point contre elle. Mais Pierre vient juste d'appeler Jésus le Fils de Dieu, et la majorité des ministres qui prétendent suivre le ministère de William Branham n'ont pas la même révélation que Pierre. Cette révélation donnée à Pierre par Dieu le Père comme Jésus l'a souligné. Donc, ce matin, nous allons examiner la différence entre l'Apocalypse et la puissance d'égarement, parce que les deux influencent très puissamment le monde aujourd'hui, et pas seulement dans le monde mais aussi parmi ceux qui prétendent croire le message du temps de la fin de Malachie 4. Et admettons-le, je n'y suis pas intéressé par le monde. C'est une cause perdue. Ils ont rejeté le message en 1956. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est d'examiner le reste de ceux qui se revendiquent du message mais qui, en fait, l'ont rejeté. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les fils et les filles de Dieu qui sont assis sous de fausses représentations de ministères qui n'ont pas plus de révélation de Dieu que les pentecôtistes unitaires. Maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, pour comprendre la différence entre la révélation et la puissance d'égarement, nous devons savoir ce que les deux mots signifient. Parce que comme frère Branham l'a dit à propos de la différence entre l'apparition et la venue, il a dit que ce sont deux mots différents et qu'ils signifient deux choses différentes. Et ainsi ont-ils de la révélation et de la puissance d'égarement. Maintenant, nous avons déjà discuté des mots illusion et puissance d'égarement, mais examinons également le mot révélation. Le mot révélation signifie l'acte de révéler ou de dévoiler. B. Quelque chose révélé. Quelque chose non antérieurement connu ou compris mais que l'on fait connaître ou que l'on fait comprendre. Dans la Bible, c'est une manifestation de la volonté divine ou de la vérité. Nous voyons donc que la révélation est quelque chose qui était caché, que Dieu avait caché auparavant, mais que Dieu dévoile ou divulgue ou manifeste de manière à révéler ou à faire connaître cette vérité aux hommes. C'est donc de faire connaître par la manifestation de la vérité divine. C'est essentiellement Dieu qui interprète sa parole en l'accomplissant. Maintenant, comparons cela à la puissance d'égarement, car la puissance d'égarement vient de la séduction, l'acte de séduire. Et pour séduire vous devez prendre une vérité et lui faire quelque chose pour la cacher aux hommes. Alors que la révélation prend ce qui est caché et le révèle, tandis que la séduction prend ce qui est révélé et le cache aux hommes. Et le résultat, c'est la puissance d'égarement. Donc on peut dire que la révélation révèle ou manifeste tandis que la séduction entrave ou dissimule la vérité. Autrement dit, une puissance d'égarement est alors anti ou contraire à la révélation. Laissez-moi le dire d'une façon dont vous vous souviendrez peut-être mieux. La révélation révèle, la puissance d'égarement dissimule. Or, j'ai enseigné, face à face, la doctrine du message à plus de 3500 ministres dans le monde, et je n'admettrai pas que tous ceux que j'ai enseignés ont ouvert leur esprit et leur cœur à la doctrine. Tout dépend de votre état d'esprit. Lorsque vous entendez la parole, vous la recevez ou la rejetez. Frère Branham dit dans son sermon Les Noms Blasphématoires d'Im 4 novembre 62 M132 et alors. Ça c'était le numéro 1. Le numéro 1. Venant à vous, à votre foi mentale. Juste ici, le Saint-Esprit vient, descendant dans votre foi mentale pour en faire une foi spirituelle. Alors, la foi spirituelle n'est mise reconnaît que la parole. 133 maintenant, et le numéro 2-3, alors vous aurez le spirituel, vous saurez, aurez le Saint-Esprit, et il scellera toutes ces choses en vous, de même que le Saint-Esprit couvre ceci. De votre foi jusqu'à là où le Saint-Esprit vous scelle à l'intérieur avec Christ, alors vous devenez un. Amen. Vous devenez un. Voyez, vous et Christ vivez ensemble. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, vous, et vous en moi. Voyez, alors c'est une unité scellée du Seigneur Dieu. Eh bien, et alors ils sont confirmés et placés. Quand ce temps est là, ils deviennent des fils et des filles de Dieu confirmés. Remarquez donc que frère Branham nous dit ici que lorsque le Saint-Esprit entre dans votre foi mentale, il oint cette foi mentale et cela devient une révélation spirituelle dynamique, et alors cela est scellé à l'intérieur et personne n'ennemi pourrait jamais vous dérober cela, et il a dit que cela vous fin avec Christ. Et remarquez qu'il a dit que quand on en arrive là, on est prêt pour le placement des fils et des filles de Dieu. Autrement dit, nous devons être dans cette condition où notre foi mentale a été ointe de l'Esprit de Dieu et elle est tombée dans notre âme nous scellant et nous faisant avec la pensée de Christ, et nous devons arriver à cette condition afin d'être placés dans l'adoption de Fils. À nouveau dans son sermon Les Noms Blasphématoires d'Im 4 novembre 62 M126 et la plus grande partie de notre foi est une foi mentale. En écoutant la parole, cela nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si cela vient d'en haut, ô frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi sainte, spirituelle. Alors que fait cette foi? Cette foi n'est mise reconnaît que la parole. Peu importe ce que n'importe quoi d'autre peut dire. Elle n'est mise reconnaît que la parole. Parce que, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole est toujours Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et quand la parole elle-même est versée dans notre foi mentale devient une révélation spirituelle. Et sur cette fondation, je bâtirai mon église, voyez, pas sur une conception mentale d'adhésion à l'église, une conception mentale de cela, mais sur la révélation. Et quand ces ruisseaux de grâce sont versés dans cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, une révélation spirituelle, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer Néhémie prévaudront pas contre elle. Voyez, cela montre que les portes de l'enfer seraient contre elle, mais qu'elle n'allait jamais prévaloir. Oh! Quelle chose glorieuse. Maintenant, remarquez comment frère Branham nous dit que le Saint-Esprit vient et oint notre foi mentale et ensuite elle devient une révélation spirituelle qui se bâtit parole sur parole. Puis frère Branham dit quand ces flots de grâce sont déversés dans cette foi mentale que vous avez, alors là-dessus, une révélation spirituelle. Or, Pierre, celui que Jésus a loué pour avoir reçu la révélation de la divinité, qu'il y a un seul Dieu et il a un Fils, et Jésus était ce Fils de Dieu. Dans 1 Pierre 1.13 il nous dit Esther pourquoi? Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre. Et ayez une entière espérance de la grâce qui vous sera apportée. Lorsque, à la révélation de, traduction du roi Jacques, Jésus-Christ apparaîtra. Remarquez qu'il dit qu'au temps de la fin, il y aura une certaine grâce qui vous sera apportée, au temps de la révélation de Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3 nous lisons, 1 Corinthiens 1.3 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 4 Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Maintenant, remarquez ce que cette grâce doit faire. 5 Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole. Ce mot parole fut traduit du mot grec logo, que nous connaissons sous le nom de parole. Mais il signifie aussi doctrine ou enseignement, et la connaissance. Nous voyons donc que cette grâce doit nous combler de toutes les richesses, de nous enrichir, comme le fait l'engrais à la semence semée en terre. Et Esther pour combler de toutes les richesses, enrichir, la doctrine et la connaissance, afin de produire une récolte pleinement manifestée de fils et de filles. Puis il nous dit pourquoi. Si ce témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, c'est de sorte qu'il n'est mis vous manque aucun don. Le mot Esther charisma, et il parle d'une attribution comme de l'acuité mentale, ou de la capacité de comprendre. Alors Dieu envoie une onction de grâce spéciale, afin d'oindre nos pensées à la doctrine, afin que nous n'ayons manquions d'aucune compréhension, dans l'attente où vous êtes de la manifestation, l'apocalypsis ou dévoilement, de notre Seigneur Jésus-Christ. 8 Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Dieu Esther fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout un même langage, et à n'aimer point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ainsi, vous voyez cette grâce dont frère Branham parlait Esther la même grâce dont Pierre et Paul ont parlé, qui viendrait au moment de l'apocalypsis ou dévoilement de Dieu. Et cela devait produire en nous une onction sur nos pensées faisant descendre cette compréhension dans nos âmes afin que nous puissions comprendre notre propre rôle de fils, nous donnant la même pensée qui était en Christ et nous préparant à l'adoption comme des fils obéissants. Nous voyons donc l'importance de la révélation pour le croyant. La révélation Esther ce qui nous scelle à l'intérieur. La révélation Esther ce qui prend tout l'enseignement transmis d'un prophète confirmé, réenseigné par un véritable quintuple ministère, et ou un autre foi mentale de la capacité de croire parole sur parole, l'amenant à une révélation dynamique et surnaturelle qui nous scelle dans la parole de Christ et nous prépare à notre adoption. L'apôtre Jean parle de cela dans 1 Jean 2.20 pour vous. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est Esther saint, et vous avez tous de la connaissance. 21 Je vous ai écrit, non que vous n'ayez mis, connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge n'ayez mis vient de la vérité. 22 Qui est Esther menteur, sinon celui qui nie que Jésus est Esther le Christ. Celui-là Esther l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 24 Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. 25 Et la promesse qu'il nous a faite, c'est Esther la vie éternelle. 26 Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. 27 Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est Esther véritable et qu'elle n'Esther point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Nous voyons donc que le Saint-Esprit Esther, notre enseignant, et l'onction du Saint-Esprit sur le croyant Esther, ce qui vous permet de connaître et de comprendre les choses profondes de Dieu. En fait, l'apôtre Paul enseigne cela dans 1 Corinthiens 2.9 où il dit, 9, mais, comme il Esther écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'est mis son point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ni Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est Esther l'Esprit de l'homme qui Esther en lui. De même, personne n'est aimé connaît les choses de Dieu, si ce n'est Esther l'Esprit de Dieu. 12 Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l'homme animal n'émi reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il n'émi peut les connaître, parce que c'est Esther spirituellement qu'on en juge. 15 L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est Esther lui-même jugé par personne. 16 Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Nous voyons donc que le problème que nous avons même parmi nous, avec nombreux, qui prétendent être des croyants du message, c'est Esther que les hommes ont reçu leur savoir des hommes, mais pas de Dieu. Et veuillez n'aimez pas me parler pas de cette église-ci du message ou de cette église-là du message, parce qu'il n'existe qu'une seule église et Esther le corps de croyants né de nouveau. Ce sont donc des individus qui composent ce corps et non des corps d'église. Je n'ai jamais aimé cette idée d'appeler les églises des églises du message, car beaucoup n'aimés ne le sont pas. Esther comme de qualifier tous ceux qui croient à la justification de luthériens, mais beaucoup de ceux qui croient à la justification que le juste vivra par la foi ou la révélation, qui était le message de Luther, beaucoup n'aimés ne sont pas luthériens. Vous pouvez appeler les gens des croyants du temps de la fin, mais tous ceux qui croient que nous sommes au temps de la fin n'aimés ne sont pas des croyants du message que Dieu a fait descendre par un cri, et tous ceux qui écoutent les bandes de William Branham, n'aimés ne sont pas des croyants du message du cri, parce qu'ils nient ce qu'il a enseigné. N'oubliez jamais qu'il y a trois sortes de croyants dans chaque congrégation. Donc, en général, les églises ont trois sortes de croyants. Par conséquent, les qualifier toutes d'églises du message, n'est-ce pas seulement une erreur, mais c'est un point de vue organisationnel et dénominationnel. Et admettons-le, ce genre de discours, c'est l'organisation, qui regroupe dans un seul groupe tous ceux qui prétendent suivre un certain enseignement, et c'est faux. Les vierges sages et les vierges folles ont toutes entendu le même cri de minuit qui Esther le cri de 1 Thessaloniciens 4 dont nous savons être le message, mais tous n'ont pas cru. Et ce message était « Voici l'Esther ici, venez à sa rencontre », et certains sont sortis pour le rencontrer tandis que d'autres sont sortis en doutant qu'il était réellement là. Alors ils l'ont raté parce qu'ils ont cherché un vase. Néhémie comprenant pas la différence entre l'apparition et la venue, que ce sont deux mots différents et signifient deux choses différentes. Frère Branham nous a enseigné dans son sermon La Voix du Signe Sam, 21 mars 64 s. 109 alors. Les élus écoutent la voix. 110 Mais ceux qui Néhémie sont pas élus ignorent et disent, c'est Esther du non-sens. Allez-y. Nous allons suivre la même vieille école. Voyez, c'est Esther ce qu'ils ont fait du temps de Luther. Et ignorer signifie s'abstenir de remarquer ou de reconnaître. C'est Esther la définition d'ignorer. Par conséquent, bien qu'ils puissent appuyer sur lecture et écouter la bande ou la voix de leurs oreilles. Cependant, ils n'y reconnaissent pas ce qui est dit, et donc ils n'agissent pas sur ce qui a été dit. Et c'est exactement ce que les vierges folles ont fait. Elles n'ont pas reconnu, n'ont pas agi et n'y sont pas entrées au souper des noces. Alors elles sont allées vers ceux qui vendent. Et dans son sermon le Dieu qui est riche en miséricorde mardi 19 janvier 65, 192. Si un homme se présente avec un ministère étrange, inhabituel, que ce ministère corresponde à la vérité de la Bible, mais que cet homme continue à s'en tenir à la même vieille doctrine dénominationnelle, oubliez cela. Ça n'y vaut rien. Dieu n'y fait rien de pareil. Cette affaire-là, c'est Esther de la manne pourrie d'il y a 40 ou 50 ans, c'est Esther plein de termites, ou de vermisseaux, peu importe comment vous appelez cela, et ils essaient encore de manger de cette vieille manne qui est Esther tombée il y a bien des années. Les enfants d'Israël, au cours de leur voyage, la manne fraîche tombait tous les soirs. C'était exact. On Néhémie pouvait pas la conserver jusqu'au lendemain. 193 Nous Néhémie vivons pas d'un autre âge qui Esther du passé. Nous mangeons de la manne neuve, de la manne fraîche qui descend du ciel, alors que nous poursuivons notre voyage. Alors pourquoi les hommes continuent-ils à prêcher la même vieille doctrine unitaire et dénominationnelle et prétendent croire aux signes? Ils voient le prophète. Alors il voit le signe. Mais pourquoi continue-t-il à prêcher la même vieille doctrine édulcorée qu'ils ont gardée de la Pentecôte? Le signe dit 8 mars 64-77 il a montré son signe du Messie. Et tout. Et il. Beaucoup d'entre eux. Ils ont dit, oui. Je suis prêt à accepter ça. Bon. Mais si c'était un signe. Il devait y avoir une voix de ce signe. Quelle a été la voie qu'il a suivie? Quand il a commencé à enseigner sa doctrine et à la traiter de bande de serpents dans l'herbe. Il n'a plus été populaire à partir de ce moment-là. Vous voyez? Quand la voix est revenue avec le signe Esther sortit d'abord. Et nous savons que le prophète Esther le signe, mais la voix du signe Esther la doctrine qu'il a enseignée. On voit donc que la doctrine Esther d'une importance vitale. Parce que Esther lui a répondu sur la semence, qui amène la semence à la manifestation de la vie qui se trouve en elle. Comme Moïse nous a enseigné que la pluie sur la semence Esther la doctrine de Dieu dans Deutéronome 32.1-2 et Jésus a dit qu'il n'y voulait pas de sa doctrine. Il préférait plutôt la doctrine des hommes. Il l'a dit en enseignant pour doctrine les commandements des hommes. Ils rendirent la parole de Dieu sans effet pour eux-mêmes. Et si vous entendez mais n'apprenez pas, c'est Esther que vous avez peut-être entendu mais vous n'avez pas cru. Ou alors ce que vous avez entendu, vous n'avez pas vraiment entendu, ni n'avez compris ce que vous avez entendu. Alors ils n'ont pas vu, ni perçu ni compris de peur que Dieu n'allait guérir comme Jésus l'a cité. Alors d'entendre sans entendre et de voir sans voir montre, qu'ils avaient déjà des idées préconçues sur ce qu'ils entendaient et voyaient. Mais leurs idées préconçues étaient fausses. C'est Esther pourquoi ils ont entendu sans entendre, et ont vu mais sans voir, ni n'ont plus compris. C'est Esther ce que l'apôtre Paul nous a dit dans 2 Thessaloniciens 2.10, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. 12 Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Maintenant, une puissance d'égarement Esther une fausse croyance fortement ancrée malgré des preuves invalidantes. Et peu importe les centaines d'écritures que vous pouvez leur donner en leur montrant la vérité de la doctrine du message, et peu importe les centaines de citations de frère Branham que vous pouvez leur donner, ils refusent toujours de croire ce que le prophète de Dieu nous a enseigné concernant la parole de Dieu. Par conséquent, Prétendre qu'ils suivent le message et n'aimer pas le comprendre ni le ramener aux Écritures Esther une puissance d'égarement. J'ai parlé à ces hommes, et ils me disent qu'ils croient chaque parole que frère Branham a dit. Pourtant ils nieront catégoriquement et seront en désaccord avec ce que notre prophète nous a enseigné. Ainsi, au lieu de la révélation, qui se nourrit de parole sur parole, ils reçoivent une puissance d'égarement qui se nourrit de ce que d'autres hommes ont dit, et ainsi ils préféreront croire le mensonge plutôt que de croire la vérité confirmée par la Bible et la parole prophétique du ainsi dit le Seigneur. Si la révélation doit oindre notre foi mentale et créer en nous une compréhension surnaturelle et nous préparer pour l'adoption, alors la séduction doit faire le contraire. Cela provoquera une apostasie de la foi, qui estère le rejet de la révélation de Jésus-Christ. Maintenant, vous Néhémie pouvez pas me dire que ces hommes Néhémie s'accrochent pas intentionnellement à l'erreur, plutôt qu'à la vérité. Jésus a dit, Jean 3.19 et ce jugement s'estère que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La Bible nous dit qu'ils sont à l'affût pour séduire. Paul a dit dans Éphésiens 4.14 afin que nous Néhémie soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, tromperie et ruse par lesquels ils sont à l'affût pour séduire. Version du roi Jacques. Note du Trad. Et pourquoi pensez-vous que les hommes feraient le tour du monde pour essayer d'écraser mes réunions et d'influencer les hommes à rester loin de mes réunions? Jésus a dit, Matthieu 23.13 malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Et à nouveau nous entendons Paul dire la même chose dans Romains 1.18 la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Maintenant, ce mot retenir a été traduit du mot grec katechō et cela signifie garder, retenir ou se retenir. Autrement dit, il supprime la vérité. Remarquez qu'il garde la vérité dans une mauvaise sagesse, ce qui signifie qu'ils gardent la vérité par leur compréhension incorrecte. C'est-à-dire comme ça qu'ils gardent la vérité. Donc vous voyez en enseignant l'erreur au lieu de la vérité, ils cachent la vérité aux gens. Et pour cacher la vérité aux gens, ils font en sorte que les gens restent loin de la vérité. Maintenant, pour faire cela, ils doivent mentir sur la vérité de la divinité. Et ainsi ils mentent et disent que nous enseignons de Dieu. C'est-à-dire ainsi qu'ils peuvent supprimer la connaissance de la vérité aux gens, parce que les gens ont peur de vérifier la vérité. Et n'est-ce pas l'arme principale du diable? La peur? N'est-ce pas ce que font les gouvernements partout dans le monde en présentant partout la peur aux gens? Mais Dieu nous a promis que la peur n'émit vient pas de lui. Mais il nous a plutôt promis que Néhémie nous a pas donné un esprit de crainte mais d'amour et de sagesse. Alors d'où vient la peur? Du diable. Et c'est son arme numéro un. Maintenant, afin d'enseigner un mensonge, ils Néhémie viennent pas directement nier les Écritures. Non, Satan n'a jamais fait ça. En fait, il les a cités. Mais ce qu'il a fait, c'est Esther de Malachi placer et de disloquer les Écritures en les citant hors de leur contexte et dans le désordre. Des hommes qui prétendent croire au message Néhémie viendront pas tout de suite dire qu'ils Néhémie sont pas d'accord avec frère Branham. Mais quand vous citez la Bible et William Branham, ils disent que vous les inventez et entordiez le sens. Ils disent le croire. Cependant ils nient ce qu'il a enseigné. Dans son sermon l'accusation d'Im 7 juillet 63, M. frère Branham dit, 303 vous pauvres intellectuels, gens dépourvus d'esprit, rejetés sur base de vos propres actions, vous lisez la même Bible que n'importe quel homme peut lire, mais vous avez rejeté l'esprit de Dieu, Au point que la Bible a dit que vous serez livrés à une puissance d'égarement, pour croire un mensonge et être condamné par cela. Vous croyez effectivement que vous êtes en ordre. Et la Bible a dit que vous croiriez cela et que vous seriez condamné par ce même mensonge, que vous croyez être la vérité. 304 Par conséquent, je vous accuse par la parole de Dieu. Vous enseignez aux gens une erreur et vous crucifiez les principes de Christ, les principes de la sainteté et de la vie d'en haut, selon lesquels une personne pure peut sortir dans la rue et rester une personne différente. Alors, quelle est-elle la meilleure façon de cacher un vrai diamant? Mettez-le dans une pièce avec 1000 contrefaçons. Et quelle est-elle la meilleure façon de cacher la vérité? Mettez-la dans un message avec 1000 contrefaçons. Écoutez, la religion contrefaite n'est-elle pas là quelque part à l'extérieur? C'est-elle juste parmi nous, essayant de vous garder loin de la vérité du message? Et comment pouvez-vous adorer Dieu en dehors de la vérité? Vous n'aimez le pouvez pas. Alors ils essaient de changer la vérité. Et Paul nous a dit comment ils le font. Il l'a dit dans Romains 1:25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Qui est-elle bénie éternellement. Amen. Et donc au lieu de prêcher sur le Fils de Dieu et comment il est venu et a donné sa vie. Il prêche sur l'épouse. L'épouse et l'épouse. En elle demeure corporellement la plénitude de la divinité. Il prêche la créature au lieu du Créateur. Et donc ils n'y croiront pas le témoignage que Dieu a donné de son Fils et, ce faisant, ils qualifient Dieu de menteur. C'est-à-dire ce que dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 5:10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui n'y croit pas Dieu le fait menteur. Puisqu'il n'y croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et quel était ce témoignage que Dieu a rendu de son Fils? Jean-Baptiste nous a dit dans Jean 1:32 Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et à nouveau au verset 34 et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Ainsi l'erreur des méchants est de prendre la parole de Dieu et d'en tordre le sens de façon à la déformer, afin qu'elle n'ait dise pas ce qu'elle dit réellement. Cela signifie mentir sur la vérité afin d'éloigner les gens de la vérité. C'est ainsi qu'il supprime la vérité. De Pierre 3:17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous n'ayez venu à des choix de votre fermeté. Et Jude nous dit dans Jude 1:11 Malheur à eux. Car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Et quel était l'égarement de Balaam? Nous sommes tous pareils. C'était ça l'égarement de Balaam. Nous sommes tous pareils. Mais nous n'y sommes pas pareils. Jésus a dit dans sa prière adressée au Père, Jean 17:14 Je leur ai donné tes paroles. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils n'y sont pas du monde. Comme moi je n'y suis pas du monde. Et il a également dit dans Jean 16:2 Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. 3 Et ils agiront ainsi. Parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Et à nouveau Jésus a dit dans Jean 15:20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 21 Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils n'y connaissent pas celui qui m'a envoyé. 22 Si je n'étais pas venu et que je n'ai mis leur point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. Or, frère Branham nous a averti dans son sermon Christ Esther Revel, dans sa propre parole que les gens perdraient la raison au temps de la fin. Il dit, 159 maintenant. Si un homme, dans l'âge de la Odyssée, les gens étaient quoi? Nus. Le sont-ils? Aveugles. En quoi la lumière est-elle utile à un aveugle? Si un aveugle conduit un aveugle, n'est-ils tomberont-ils pas tous dans une fosse? Nus. Aveugles. Ils n'aiment et le savent pas. Même leurs facultés mentales sont abîmées. Leurs facultés spirituelles. Leur entendement spirituel. Voyez-vous? Emportés. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants et ennemis des gens de bien. Ayant l'apparence de la piété. Mais reniant ce qui en fait la force. La puissance de la révélation. Il n'y croit même pas à cela. Voyez-vous? Les prophètes. Il n'y croit pas à cela. Et alors? Il n'y croit pas. La manière d'un vrai prophète d'hymne 13 mai 62 m 207 la Bible dit que s'il n'y voulait pas croire à la parole. Il leur donnerait une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient condamnés par cela. C'est exactement ce que font aujourd'hui ces organisations ainsi que les gens de cette nation, ils croient au mensonge pour être condamnés par cela. Le don enveloppe de Dieu d'hymne 25 décembre 60-68 Dieu a dit qu'il les livrerait à une forte illusion pour croire un mensonge et être condamnés par cela. Dieu a dit qu'il le ferait. Vous refusez ce qui est correct? Vous aurez à recevoir ce qui est faux. Il n'y a pas d'autre voie. Vous refusez d'aller à droite? Vous devez aller à gauche? Prendre toute autre voie. Sauf la droite? Vous n'y pouvez donc pas suivre la bonne voie et la mauvaise au même moment. 69 Comme ils ont refusé le Saint-Esprit, ils ont refusé Christ. Ils ont refusé le plan de Dieu. Ils ont refusé le messager. Ils ont tout refusé. C'est pourquoi ils sont restés dans leur péché. Ils n'aiment leur reste alors que le jugement. Prions.